VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
13h à Dakar, 14h à N'Djamena. Bienvenue à notre journal. On commence par l'Afrique de l'Ouest, Mali. Trois gendarmes maliens ont été tués dans la nuit de mardi à mercredi près de Mopti, dans le centre du pays, par des djihadistes présumés. Confirmant l'information, un responsable de la police locale a déclaré que les trois gendarmes étaient tombés dans une embuscade, en précisant qu'ils étaient allés dans une zone difficile d'accès. Toujours concernant le Mali, à l'issue d'une réunion à Alger, le comité de suivi de l'accord pour la paix dans le pays a déploré hier la lenteur de la mise en œuvre du document. Des détails avec Arzuma Compaoré.
Les trois parties signataires de l'accord dit d'Alger étaient représentées à cette réunion. Le gouvernement malien, la coordination des mouvements de l'Azawad, la plateforme et tous les membres de la médiation, dont Mahama Saleh Anadif, nouveau chef de la MINUSMA, devaient faire le point 6 mois après la signature de l'accord de paix malien. Un comité de suivi dirigé par l'Algérie a relevé les lenteurs dans la mise en œuvre d'engagements clés, mais s'est félicité de la cessation des hostilités. Il a rappelé la responsabilité de Bamako et le rôle crucial des autres parties signataires. Le comité a fait état de sa préoccupation face à la persistance des attaques terroristes et criminelles visant les forces maliennes, les forces internationales et la population civile.
Burkina Faso, 4 jours après l'attaque terroriste à Ouagadougou, la capitale, de nombreuses questions restent sans réponse. Le nombre d'assaillants est toujours un mystère. Et selon le déroulement reconstitué par plusieurs témoins et des sources proches de l'enquête, les djihadistes ont attaqué en premier le café-restaurant Cappuccino. Puis, ils se sont rendus à l'hôtel Splendid. On a longtemps cru que la cible principale était l'hôtel Splendid et il a concentré l'essentiel de l'attention médiatique et même des forces de sécurité pendant les événements. Or, le bilan montre que c'est le café-restaurant Cappuccino qui était visé en priorité. Car il a été le théâtre le plus sanglant des événements, 26 des 30 personnes tuées l'ont été au Cappuccino. Selon une source proche de l'enquête qui précise que 17 étaient à l'intérieur de l'établissement et 9 sur sa terrasse. Au Sénégal, le président Macky Sall a décidé de respecter sa promesse électorale d'abandonner le septennat pour un mandat présidentiel de 5 ans seulement. Et en mai prochain, l'électorat devra se prononcer sur la question. Mais avant ce référendum, le Conseil constitutionnel et l'Assemblée nationale se pencheront sur ce projet. Le point avec notre correspondante à Dakar, Sokhna Natambaye.
Tout a commencé lors de la campagne électorale de 2012. Le candidat Macky Sall avait promis de réduire la durée du mandat présidentiel. 3 années plus tard, cette promesse le rattrape. Le débat fait rage. Pour le constitutionnaliste Babacar Gueye, le chef de l'État n'est pas tenu de s'y conformer.
Les promesses ou les engagements d'un candidat à la présidence n'ont aucune valeur juridique. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si le président de la République décidait de ne pas respecter son engagement de réduire la durée du mandat du président de la République et de la porter de 7 à 5 ans, il ne commettrait aucun crime ni aucun délit.
À la surprise générale, le 17 janvier dernier, Macky Sall fait fi de la volonté de certains de ses alliés et propose un projet de révision constitutionnelle. Un texte qui devrait être soumis au peuple par voie référendaire en mai prochain. Le document est envoyé aux médias et cela provoque des grincements dedans du côté des alliés. Jean-Paul Diaz, président du parti BCG.
Un document comme ça doit nous parvenir par le ministère de l'Intérieur, pas par la presse. Et je regrette, ce document, enfin ce travail, n'est pas le fruit d'une concertation, parce que tout ce qui a été dit à la CNRI ne nous lie pas, nous, partis politiques.
Le porte-parole du gouvernement, lui, demande de respecter le choix du chef de l'État, Seydou Gueye.
Le président Macky Sall a fait quelque chose d'inédit et d'exceptionnel. On n'a jamais vu au monde un président accepter de réduire son mandat parce qu'il sait que le pays en a besoin. Avec 15 modifications structurantes, elle deviendra une constitution impersonnelle.
Sur le fond, Jean-Paul Diaz et beaucoup de ses compagnons ne veulent pas des réformes.
Nous ne sommes pas d'accord pour que des candidatures indépendantes soient autorisées lors des élections locales. Nous ne sommes pas d'accord non plus pour que le nombre de membres du Conseil constitutionnel qui doit passer de 5 à 7 voit les 2 membres supplémentaires désignés par le président de l'Assemblée nationale. Nous ne sommes pas d'accord sur la réduction du mandat mandat. C'est tout à fait illégal, puisqu'il avait prêté serment de respecter la Constitution, donc de respecter un mandat de 7 ans.
Bien évidemment, du côté de l'opposition également, le procédé dérange. Babacar Gaye, porte-parole du Parti démocratique sénégalais.
Je ne suis pas certain que c'est le président de la République qui a publié un projet de révision constitutionnelle. Si c'était le cas, j'aurais vu un décret de publication ou à la limite une saisine des organes prévus dans ce sens par la Constitution.
Parmi les modifications, la limitation d'âge à 75 ans pour tout candidat à la présidentielle en quinquennat, être exclusivement de nationalité sénégalaise, entre autres. Sornana Tambay, Dakar, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Crise au Burundi, une délégation du Conseil de sécurité de l'ONU quitte New York ce soir à destination du Burundi. Les précisions de Timothée Donangmaï.
Conduite par la représentante des États-Unis à l'ONU, Samantha Power, et l'ambassadeur de France à l'ONU, François Delattre, la délégation tentera de relancer le dialogue entre les parties rivales burundaises. Pour le vice-secrétaire général de l'ONU, Yann Eliasson, cette visite du Conseil de sécurité à Bujumbura est de la plus grande importance. L'émissaire spécial onusien pour le Burundi, Jamal Ben Omar, est en contact avec les membres du Conseil et l'ONU maintient un contact étroit avec l'Union africaine et la communauté est-africaine compte tenu de la situation, a-t-il expliqué. Nous notons des signes très préoccupants sur le terrain et une certaine nervosité au Rwanda est aussi source de préoccupation. Ce qui ne doit pas arriver au Burundi, c'est que ce conflit passe d'une phase politique à une phase ethnique, a déclaré Yann Eliasson, avertissant que l'élément ethnique serait beaucoup plus difficile à contrôler.
Dans un communiqué, le département d'État américain se dit profondément alarmé par les informations faisant état de graves violations des droits humains au Burundi. Washington exhorte le gouvernement burundais à permettre le déploiement immédiat d'observateurs du respect des droits humains de l'Union africaine dans le pays. Les États-Unis souhaitent également l'ouverture d'une enquête sur les récents abus commis et des procès pour les responsables. On reste en Afrique. Le braconnage de la faune africaine au centre des préoccupations de Washington. La ministre américaine des Affaires intérieures et des Ressources naturelles, Sally Jewell, entame jeudi une tournée africaine pour dénoncer le trafic d'espèces protégées. Plus de détails avec Eddie Sango.
Avant cette visite qui l'amènera au Gabon, au Kenya ainsi qu'en Afrique du Sud, Mme Jewell a expliqué à la presse la décision des autorités américaines d'interdire l'importation des trophées des lions et d'éléphants, particulièrement du Zimbabwe. La direction des eaux et forêts des États-Unis ne pense pas que des mesures adéquates soient en place dans ces pays pour les efforts de conservation. C'est la position que nous avons adoptée. Contrairement au Zimbabwe, la Namibie dispose de telles mesures, a précisé Mme Jewell, ajoutant qu'il est important pour les pays de travailler avec les États-Unis et les communautés locales à cette fin. Les gouvernements zimbabwéens et les opérateurs touristiques de son pays disent pour leur part que l'interdiction de l'importation des trophées affecte négativement les revenus nationaux du Zimbabwe.
L'actualité dans le reste du monde, le Premier ministre libéral du Canada, Justin Trudeau, est accusé de manquer de cohérence en politique étrangère après la mort de 7 Canadiens dans les attentats de Jakarta en Indonésie et de Ouagadougou au Burkina Faso. Le pire bilan pour le pays dans des attaques depuis le 11 septembre 2001. En poste depuis 3 mois, le Premier ministre Trudeau arrive au forum de Davos en Suisse alors qu'on lui reproche chez lui d'avoir été écarté de la communauté internationale pour avoir voulu retirer les avions canadiens engagés dans les frappes contre le groupe État islamique en Syrie et en Irak. Le Canada est d'ailleurs absent de la réunion aujourd'hui à Paris des ministres de la Défense des 7 principaux pays de la coalition internationale contre l'organisation djihadiste, à savoir États-Unis, France, Australie, Allemagne, Italie, Royaume-Uni et Pays-Bas. Et en Syrie même, le groupe djihadiste État islamique a libéré 270 des 400 civils qu'il avait enlevés la semaine dernière à Deir ez-Zor dans l'est de la Syrie. C'est ce que rapporte aujourd'hui l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Pakistan, le mouvement des talibans pakistanais a revendiqué l'attaque d'une université à Shah Sada dans le nord-ouest du pays. Une attaque qui a fait au moins 21 morts ce matin. Nos quatre kamikazes ont mené l'attaque contre l'université de Bachakan. Aujourd'hui, a déclaré par téléphone à l'AFP un commandant des insurgés, Omar Mansour, depuis un lieu inconnu. Et pour terminer, Israël a rouvert partiellement aujourd'hui l'accès des colonies de Cisjordanie occupées à des milliers de Palestiniens qui y travaillent après leur en avoir fermé les portes. Après deux attaques, dont une meurtrière. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.